bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouvel épisode des Thermofromages. Je suis Père Castor et je suis toujours accompagné par mon acolyte Flavien. Salut Flavien.
Salut Père Castor. Avant-dernier épisode de la saison.
Avant-dernier, ouais. Est-ce qu'on va tenir le coup jusqu'à la fin?
Oh, je pense quand même. Ça devrait le faire.
C'est les dernières vacances scolaires avant l'été. Donc, est-ce qu'on va réussir à se retrouver?
Oui. On devrait y arriver.
Alors, le terme du jour, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Alors, le terme du jour. Alors, à la fin, on avait fait T comme thème.
Oui, et d'ailleurs, j'ai dit thème, je crois, au lieu de terme.
Non, je crois que tu as dit terme, mais c'est moi qui ai mal rebondi. Mais donc, le terme du jour, ça va être I, non comme Icar, hein, mais comme...
Illusion.
Illusion, un jeu de... non, pas du tout. Comme interaction. Ouais.
Alors, c'est vrai que l'interaction, c'est un peu le graal hein, que cherchent les auteurs et les éditeurs dans les jeux de société. C'est, en fait, c'est un terme qu'on n'entendait pas tellement il y a quelques années. On cherchait plus des jeux. L'important pour un jeu, c'était l'équilibrage. I comme illustration également, on aurait pu dire. Mais c'est vrai que de nos jours, on cherche beaucoup d'interactions dans les jeux de société.
En tout cas, c'est une grille de lecture qu'ont les joueurs qui vont se dire « Ah oui, c'est quand même une thématique, l'interaction, qui revient souvent. Moi, je me rappelle sur les forums de Trick Track au début des années 2010 et même avant. Ça a toujours été un critère, entre guillemets, pour définir un jeu. Oh, il y a trop d'interactions, ça ne va pas plaire à ceux qui veulent jouer un peu plus cool. Ou bien, oh, il n'y a pas assez, c'est vraiment chacun dans son coin. C'est quand même un critère qui était déjà assez ancien.
Alors que c'est assez vague, au final, quand tu dis il y a trop d'interactions dans un jeu, parce qu'il faut savoir de quelle interaction on parle.
Oui, tout à fait.
Et on va essayer de détailler un petit peu
on
ça
au fur
et à mesure.
On va essayer de détailler un peu tout ça et de citer quelques exemples de différents types d'interactions au cours de l'épisode. Mais avant ça... Retour vers le passé.
Et oui, retour vers l'épisode précédent qui date du mois de février.
Yes, et d'autres vacances scolaires.
Voilà, c'est ça. Et on avait parlé du coup du terme thème et on a eu quelques commentaires sur le billet. Donc toujours merci à vous hein, qui yes. prenez la peine d'aller lire la prose que Flavien met...
Alors la prose n'est pas très stylisée parce qu'en général, c'est vrai que la grosse partie du billet, c'est les jeux cités. Avec à chaque fois l'auteur, l'illustrateur. Quand il y en a vraiment énormément, je n'y mets pas tous. Enfin, je mets beaucoup d'illustrateurs parce que parfois, il y en a vraiment trop. Mais à chaque fois, j'essaie quand même de détailler avec le petit lien Philibert.
Et d'ailleurs, sur tous ces détails de jeux que tu mets en avant dans le billet, il y a notamment Twin.
Fidèle de de multiples formats de proxy jeux.
C'est ça, je pense qu'on s'inquiétera un jour où il n'y a pas un commentaire de Twin hein, sur un billet. Et donc, il nous remercie pour cet épisode et également pour le travail préparatoire. Et alors, je pense qu'il n'a pas connaissance de la puissance du moteur de recherche BGG qui nous aide beaucoup dans la préparation.
Notamment donc, il faut un petit peu mitiger. Dans les thèmes, quand on voulait rassembler les thèmes, c'est vrai qu'il y avait quelques trucs qui permettaient de regrouper. Ah oui, il y a ça aussi, et puis il y a aussi ça.
Voilà, il y avait pas mal notamment de posts, enfin ce qu'ils appellent les espèces de longs fils, les longs threads sur BGG qui va rassembler les geek lists avec les jeux de dés, les jeux sur la thématique zombie, les jeux sur la thématique médiévale, etc. etc. Donc ce sont d'excellentes sources d'inspiration. Donc n'hésitez pas également à utiliser ces listes.
On a quand même bossé, hein.
Quand même, oui.
Un petit peu.
Et on avait également un commentaire de Gnarf, qui nous remercie également pour cet épisode. Et on avait parlé de quelques jeux dans lesquels il y avait des petits écarts thématiques pour justifier un peu de mécanique. Et on avait notamment
les fameuses dissonances ludonarratives.
Voilà, c'est ça. Pour où est-ce qu'on accepte de faire un petit écart sur de la cohérence thématique pour rajouter des contraintes mécaniques pour de l'équilibrage, par exemple.
Ouais, voilà, pour équilibrer souvent, pour que ça soit jouable.
Et on avait notamment parlé de la réapparition des soldats dans Kemet.
Est-ce qu'ils, quand ils sont détruits, retournent dans leur ville, en fait?
C'est ça. Et tu avais peut-être dit que la mécanique était du coup un petit peu artificielle à cause de ça. Mais ce qui nous indique, c'est qu'à la fin d'une bataille, le vainqueur et le vaincu peuvent décider de sacrifier les troupes restantes pour avoir plus de points de prière. Les points de prière qui vont permettre de faire des achats supplémentaires, par exemple, de pouvoir par la suite. Et lui, il trouve que c'est assez thématique puisque le sacrifice va en faveur des dieux. Et c'est vrai que toute la partie divinité est importante dans la thématique de ce jeu.
Oh oui, clairement.
Donc ça se justifie.
Tout à fait. Merci à lui de cette précision. C'est vrai que du coup, je n'avais pas repréciser ça dans les règles. Donc, enfin, c'est une remarque tout à fait justifiée. Merci à toi. Et donc, sans plus attendre, hein, on va partir sur l'interaction avec plusieurs petits trucs dans le préambule. D'abord, comme d'habitude, une petite définition.
Voilà, la petite définition. Alors, je n'ai pas pris le Larousse cette fois-ci, on est allé sur Wikipédia.
On va vous dire pourquoi après.
Voilà. Donc,
bah, si Wikipédia, sur ce, mille fois plus sûr que le petit Larousse.
Alors, la définition de l'interaction selon Wikipédia. Une interaction est une action ou une influence réciproque entre deux ou plusieurs choses ou phénomènes, souvent des éléments d'un même système.
Il y a plein de trucs intéressants dans cette définition, un peu comme quand on avait pris...
Asynchrone.
Oui,
asymétrique. Pardon, oui.
Il y a notamment le fait que c'est deux ou plus, donc ça exclut les jeux seuls.
Alors, est-ce que tu peux avoir une interaction avec toi-même?
Ça dépend qui. Oui, mon précieux. Non, c'est le maître. Non, mais et puis il y a aussi le côté système qui est très intéressant parce que il y a tout un système de jeu, un système de règles.
Bah, donc, le jeu, c'est un système dans lequel il y a des possibilités, il y a règles. Des règles. Voilà. Après, il y a le terme réciproque qui est intéressant. Bah, qui dit réciproque dit que une action va avoir des conséquences et cette conséquence va peut-être générer un retour de bâton ou un retour. Vers
une nouvelle action. Et donc, pour continuer dans le préambule, donc ça c'est la définition Wikipédia, on n'a pas pris celle du Larousse parce qu'un autre blogueur, ancien intervenant chez ProxyJeux il y a bien longtemps de ça, c'est Gus, de Gus & Co, qui a fait un article en décembre 2018 sur l'interaction et en fait sur comment il le définit et aussi notamment sur différents niveaux d'interaction. Alors, l'article ne va pas vraiment au fond des choses, mais il est intéressant en tout cas comme base de départ.
Il avait essayé de mesurer. En fait, est-ce qu'on peut mesurer l'interaction dans un jeu, en fait ?
Et d'ailleurs, ça rejoint un peu aussi des trucs dont on parlait sur le vocabulaire ludique, qu'éventuellement, il y a certains jeux qui mettaient une échelle d'interaction sur leur boîte. Alors, ça restait très rare, mais ça montrait que c'était plus ou moins interactif. Donc, par exemple, vous voulez jouer à la cool en couple, parce qu'il ne faut pas vous disputer, mon Dieu. Donc, voilà, ça, il n'y a pas trop d'interaction, vous pouvez jouer. Au contraire, vous voulez de la baston, y a beaucoup d'interaction.
Ah, mais ça veut dire qu'on part du préambule, que interaction veut dire affrontement.
Bien sûr, mais ça reviendra dessus au cours de l'émission. Mais donc, voilà, il voulait effectivement faire une échelle de 1 à 5. Donc, c'est un article de décembre, encore une fois, 2018. Et donc, il avait utilisé la définition du Larousse, que je vais citer rapidement. On retrouve certains éléments de la définition que tu as donnée. Réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur l'autre. Et action réciproque exerce l'un sur l'autre deux ou plusieurs systèmes physiques. Donc, voilà, et lui, il développe sur le fait d'action-réaction. Alors, on reviendra là-dessus parce qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord là-dessus. Mais voilà, alors après, il partait sur des températures avec interaction chaude ou froide. C'était assez intéressant. Et il avait fait une échelle de 1 à 5. Avec de 1, il y avait quand même une interaction indirecte, par exemple la course au point, c'est la seule interaction, c'est juste chercher la victoire. Et jusqu'au 5, interaction forte, confrontation, baston, communication, coopération, négociation, party game, équipe. Il met beaucoup de choses dedans, alors qu'il y a vraiment des choses très différentes dedans. Mais donc voilà, après c'est de...
Est-ce que ça existe un jeu de party game sans interaction ?
Eh ben, on va en discuter un petit peu, parce que justement... On peut même se dire que dans tout jeu, il y a une interaction. Enfin, c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé, qu'on spoil ici. Mais donc voilà, vous pouvez aller contacter Gus pour lui dire que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, mais aussi consulter surtout son article sur l'interaction, voilà, pour un peu plus de détails. Donc voilà, et puis c'est un sujet, nous, chez ProxyJeux, qui revient souvent dans les jeux du mois, dans sortant de grands jeux, même quand on discute entre nous. Ah oui, c'était bien, mais c'est chiant, on a tout joué dans notre coin, on aurait bien aimé jouer ensemble.
Ouais, mais à l'inverse, tu peux aussi avoir des jeux où tu en as un petit peu marre qu'on vienne toujours le temps te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça serait peut-être un jeu où il y ait une surreprésentation de l'interaction.
Oui, une interaction mal designée aussi. Parce que du coup, si l'interaction devient un défaut du jeu, c'est que peut-être elle n'est pas bien conçue.
C'est un petit peu ce qui nous était arrivé lorsqu'on avait joué à Civ. Parce que toi, tu l'avais joué extrêmement agressif. Je ne sais pas si tu te rappelles la partie qu'on avait fait à Debrezel et des jeux.
Ah oui, à Civ, oui. Oui, le jeu
de CIV. Ouais, pas Civilisation. Que ceci dit, à Civilization, il y a probablement aussi beaucoup d'interactions. Je n'y ai pas joué, donc je ne vais
moi
pas m'avancer.
C'est pour ça qu'on a joué à Civ. Et oui, effectivement, mais du coup, ouais, il y a des jeux qui permettent l'interaction, mais qui du coup déséquilibrent la partie. Ou qui, pareil, dans Blood Rage, il y a aussi ce souci-là. Enfin, on a eu ce souci-là, nous, de trop interagir, ou dans Size, par moment.
Bah, Blood Rage, c'est un pur jeu d'affrontement, donc t'es obligé d'être dans le contact.
Je suis pas forcément d'accord, je trouve. Enfin, moins que ce que laisse prétendre le thème, en tout cas, je trouve, Mais voilà, enfin, bon, parfois...
On commence à diverger, alors qu'on n'a même pas encore essayé de définir les différentes interactions. Donc, on va démarrer par là.
Ouais, alors à chaque fois, on prendra quelques exemples de jeux et tout,
comme d'habitude.
D'habitude,
hein, vous êtes habitué à notre système d'organisation, on va dire. Alors, déjà, dans l'article de Gus, hein, il parlait d'interaction directe et d'interaction indirecte.
Ouais. L'interaction indirecte, c'était pour lui le niveau 1 de l'interaction, c'était juste chercher la victoire. Alors, nous, on s'est mis d'accord sur le fait que, en fait, entre interaction indirecte et interaction directe, il y a plein d'échelles différentes.
Et on voulait également séparer tout ce qui est interaction mécanique, donc qui est propre au jeu, donc qui est dans le système de jeu, et de l'interaction sociale que tu vas avoir autour de la table, qui peut être incluse ou pas dans le système de jeu.
Et qui peut parfois avoir des conséquences sur la partie ou non. Mais effectivement, c'était important de dire que interaction, c'est dans le jeu et hors du jeu, mais autour du jeu.
Alors, dans le sens commun de l'interaction directe, on va appeler ça l'interaction frontale, on va avoir tout ce qui est jeu d'affrontement. Tu prends les échecs, hein, par exemple, c'est un jeu d'interaction.
On part sur les grands anciens, les échecs, le go, tout ça.
Alors après, on peut aussi partir sur les wargames, parce que là aussi, c'est un jeu d'affrontement. Donc tu vas aller dans de l'interaction de destruction.
Ouais, on citait aussi Kemet tout à l'heure pour un autre thème, pour un autre terme, pardon. Également, alors, il y a des jeux qui sont basés sur cette interaction d'affrontement. Hein. Tu as cité les wargames notamment, même si ce n'est pas la seule mécanique. Il y a la bataille, ne serait-ce que la bataille, avoir la carte la plus forte. Où là, tout de suite, tu élimines en fait, la carte de l'autre, ou bien dans les wargames, où tu élimines des unités d'autres personnes, où tu joues des cartes pour donner des malus. Donc là, il va y avoir vraiment l'interaction et l'affrontement comme cœur de mécanique. Mais cet affrontement peut être aussi une des mécaniques du jeu, comme dans Kemet, où il y a le combat qui est une des mécaniques du jeu, où il y a aussi des interactions beaucoup moins directes et moins frontales. Frontal est peut-être un meilleur terme que direct pour parler de l'affrontement. Enfin, ça me parle le plus parce qu'il y a de l'interaction directe qui n'est pas de l'affrontement.
Disons que l'interaction indirecte, ce serait dans un wargame, tout ce qui va concerner la logistique, par exemple.
Ou la gestion des cartes, s'il y a un deck commun, ce genre de choses. Mais...
Non, tout à fait. Et pas juste simplement de la comparaison de caractéristiques, avec attaque contre défense, par exemple.
Yes. Et donc ça, c'est pour les wargames, pour les jeux de figurines, pour tout ça, pour tous les jeux où il y a de la baston. C'est ce que Gus mettait tout en haut de son interaction aussi, c'est les trucs où ça tape, où ça bagarre.
Alors après, il y a l'interaction indirecte où là, tu ne vas pas directement cibler, on va dire, que ce soit un élément de jeu ou cibler directement un adversaire, mais c'est une de tes actions qui va avoir des conséquences, en fait. Donc, il va y avoir pas forcément un effet boule de neige, mais en tout cas, c'est l'effet papillon, on va dire. Ton action va avoir une conséquence et... Pour le coup, là, la conséquence va être directe pour le joueur. Donc, c'est pour ça même le terme indirect est...
Si c'est par rapport au jeu...
Induit, on va dire. C'est l'interaction induite.
Oui, c'est l'interaction avec les autres joueurs est indirecte. Par contre, effectivement, il y a une réaction plus qu'une interaction pour le joueur qui a joué.
Donc là, si on prend la mécanique qu'on retrouve dans Puerto Rico, par exemple, ou Race for the Galaxy, toi, en tant que joueur, tu vas choisir un rôle. Ce rôle va te faire bénéficier d'une action, mais cette action, elle va être rendue disponible également pour les autres joueurs.
Et c'est déjà une interaction indirecte forte, parce qu'on va voir justement, en fait, on va essayer de tracer tout un spectre des différents types d'interactions, parce que c'est vrai que si c'est permanent, en fait, dans le jeu de société, encore une fois, on peut partir peut-être du postulat qu'un jeu sans interaction n'existe pas. Ne serait-ce que parce que déjà, il y a des interactions sociales sur lesquelles on va revenir, et aussi parce que, en fait, tout ce que tu... Enfin, on va parler, la plus basse interaction, finalement, c'est, même dans des jeux où on joue chacun dans son coin, tu vas t'adapter à la stratégie d'autrui pour essayer de la contrer ou bien de effectivement t'y adapter pour en tirer parti.
Ouais, donc, ou tu vas aller sur une mécanique de privation, enfin une interaction de privation où si t'as, même s'il n'y a pas de conséquences directes sur les actions d'un joueur par rapport à un autre, tu vas essayer de décrypter sa stratégie et peut-être essayer d'acheter ou récupérer une tuile ou récupérer une position
qui
est l'avantage.
L'action du joueur observé finalement va avoir va entraîner une réaction de la part des autres joueurs qui vont, donc il y a une interaction entre l'action du joueur et celle qui suit des autres joueurs qui vont analyser, donc rien que l'analyse c'est déjà une réaction et ensuite jouer.
L'observation. Simple fait d'observer, ça génère une interaction.
Et donc si on devait citer un jeu sans interaction, enfin un type de jeu sans interaction, c'est pas des jeux à l'allemande ou à interaction faible ou quoi, c'est éventuellement les jeux solo et encore, ce serait des jeux solo de type réussite où tu n'es que tout seul avec le jeu. Parce que même si tu as une intelligence artificielle ou je sais pas, enfin il y a plein de jeux comme ça, Jingopolis ou autre, qui vont finalement être
qui vont adapter l'action par rapport à ce
donc
que tu as fait.
Donc ouais. Voilà, elles vont être développées de manière à réagir et avoir leurs propres règles qui parfois vont être une réaction à ce que toi t'as fait, et toi également tu vas réagir et t'adapter au comportement de l'IA, donc il y a une interaction entre toi et l'intelligence artificielle. On n'est pas entre l'interaction entre toi et toi-même, mais mine de rien c'est quand même...
En fait c'est une interaction entre l'état actuel de ton système de jeu et l'action que va réaliser l'IA. Alors, je sais pas si tu as déjà regardé, moi j'ai déjà joué à un wargame en solo, c'était Labyrinthe, mm-hmm. et tu as un immense algorithme en fait à dérouler avec une machine à état, et en fonction de l'état du système de jeu, tu vas partir sur une branche d'action ou sur une autre. Donc on peut dire que c'est l'observation de ton système de jeu par l'IA, même si c'est pas de la réelle observation, mais en tout cas c'est de l'analyse de situation qui va générer une action en réaction à ce que tu as réalisé.
Donc là, il y a réciprocité, il y a vraiment interaction de la part de toi-même, de l'IA ou de toi-même et de l'autre joueur. Encore une fois, il n'y a que vraiment les réussites de type solitaire ou autre, où là, il n'y a pas d'interaction parce que le truc déroule sans avoir de réaction par rapport à ton jeu. Quoi.
Alors, tu parles de réussite, si on embraye sur The Mind, est-ce que c'est un jeu avec interaction, d'après toi ?
Alors, pour moi, oui. Alors, on va pouvoir en parler peut-être quand on parlera aussi des interactions autour de la table, parce que pour le coup, je ne suis pas un grand client de The Mind. C'est vraiment pas un jeu que moi, j'ai particulièrement apprécié, mais je trouve que c'est un jeu très intéressant et une belle création qui crée des belles choses autour de la table potentiellement, qui a vraiment un pouvoir de discours, même si moi, ce n'est pas un plaisir.
Enfin, un discours, mais c'est un jeu où tu ne parles pas.
Ouais, mais justement, du discours produit sur le jeu. Donc, si on revient un peu... donc, encore une fois, jeu sans interaction, pour moi, ça n'existe pas. Il y a différents degrés d'interaction, mais de base, il y a de l'interaction dans un jeu.
À partir du moment
jeu.
Où tu as deux personnes autour d'une même table, tu as forcément une interaction.
Pour moi, en tout cas, hein, c'est mon avis. Du coup, si on repart sur les actions, sur l'interaction pardon, directe, tu as cité effectivement l'affrontement, mais il n'y a pas que ça, hein, mine de rien. Exemple, dans Dominion, on dit souvent que c'est un jeu avec peu d'interactions, mais il y a des cartes qui sont de l'interaction, pour moi, directe.
C'est de l'interaction parce que tu vas créer un effet souvent négatif chez un autre joueur.
Ça va te donner une malédiction.
Et ça va souvent être un effet assez nuisible, au final. Donc, l'interaction, là, est synonyme de nuisance.
Mais elle est directe, en tout cas. Enfin, c'est de l'interaction directe qui n'est pas directement... de la bagarre, c'est plus je te donne un effet négatif, je te donne un malus.
C'est de l'interaction directe parce que c'est de l'interaction ciblée
oui.
et volontaire.
C'est ça.
Parce que tu vas expressément jouer une carte pour nuire à l'adversaire. Donc là, on est dans de l'interaction frontale, même si c'est pas de l'affrontement, mais en tout cas, tu as un pouvoir de nuisance qui va avoir une conséquence sur le joueur. Donc comme tu l'as dit, soit tu vas lui mettre une malédiction dans son deck qui va venir un peu... pourrir ses chances de tirage de cartes, soit tu vas lui faire défausser des cartes qu'il a en main, donc limiter ses choix. Donc là, on est vraiment sur de l'interaction de nuisance qui est un petit peu un dérivé de l'affrontement parce que...
Ouais, en tout cas, il n'y a pas le côté bagarre avec suppression d'unité, par exemple, mais il y a quand même, c'est pas destruction. Quand on a préparé l'émission, tu as justement dit qu'il y a l'interaction de destruction et puis il y a l'interaction plutôt de privation. Ça s'implique à la fois à l'indirect et à la directe, hein, mais là on est plus dans entre guillemets, nuire à l'adversaire sans détruire des choses, mais en lui rajoutant des trucs qui vont lui mettre des malus. Quoi.
Alors moi, typiquement, c'est une mécanique que j'aime assez peu, la mécanique de destruction. Hormis dans les wargames. Parce que dans les wargames, tu sais que tu es là pour jouer, ouais. pour de l'affrontement. Mais quand tu as des jeux où le joueur ou la joueuse a commencé à construire ses bâtiments, à accumuler ses ressources, faire ses réserves, et toi tu viens lui piétiner en fait, tout ce que lui ou elle a construit, c'est assez frustrant au final.
Ouais, après ça dépend de comment c'est développé encore une fois. Effectivement, comme tu le dis, dans les jeux d'affrontement pur, tu sais pourquoi tu es autour de la table, tu sais ce qui va se passer, tu sais que tes unités vont mourir. Alors ça va, tu peux t'y attacher et tout ça, voilà, mais en tout cas, le contrat entre le jeu et les joueurs est clair, alors que c'est vrai que si t'es dans un jeu plutôt de gestion, et typiquement c'est là que des fois l'interaction a parfois du mal à passer avec les joueurs de jeu de gestion, c'est « putain, je me suis fait chier à faire un truc et tout, et finalement sur un coup du sort ou sur je ne sais quoi, eh ben... »
Tu viens de faire siphonner tout ce que t'as
voilà,
construit. Quoi.
Ça. Après en fait, encore une fois, moi ça me dérange pas dans l'absolu du moment que c'est bien inclus dans l'équilibrage du jeu. et que c'est pas un truc qui va ruiner la... Après, je comprends qu'on puisse mal le vivre, quoi, pour le coup.
Alors, si on prend l'exemple de The Manhattan Project, je sais pas si t'as joué.
Non, j'ai jamais eu l'occasion encore, même.
The Manhattan Project, c'est un jeu de gestion où tu vas venir développer ton programme nucléaire. Tu vas construire des bâtiments, tu vas recruter tes ouvriers.
Il y a un côté très jeu de gestion. Ouais.
Ouais. Mais là, il y a une mécanique d'affrontement puisque tu vas pouvoir aller un peu détruire les bâtiments des adversaires. Mmh. Bon, c'est de la destruction douce puisque c'est... Enfin, une destruction peut-elle être douce ou brutale, mais en tout cas, elle n'est pas trop brutale parce que tu as la possibilité de venir réparer ce qui t'a été endommagé. Donc voilà, c'est plutôt de l'endommagement plutôt que de la destruction.
Il y a aussi des jeux comme ça, alors j'en ai un en tête, mais j'arrive plus à me rappeler du nom, c'est un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps, c'est peut-être The River. Où en fait, si tu... non, ça ne doit pas être ça, je ne sais plus, peu importe. Tu détruis quelque chose chez quelqu'un, il en tire quand même une compensation.
Alors ça, tu l'as dans Settlers. Parce ouais, que le bâtiment
c'est pas celui-là auquel je pensais, mais ouais. Oui.
Parce que le bâtiment que tu vas lui détruire, ça va devenir une ruine.
Ouais.
Et cette ruine, elle est souvent nécessaire pour venir construire par-dessus un nouveau bâtiment.
Ouais, voilà. Et même, je crois, enfin, c'est aussi dans cette lore, je crois que tu peux récupérer certaines ressources si on vient te piller.
Quand tu vas faire une razzia, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, finalement, c'est pensé pour que, ok, bon, tu vas perdre quelque chose, mais quand même, des fois, ça peut même être intéressant de récupérer des trucs. Et tu peux volontairement dans cette lore faire un truc où tu te dis ils vont venir me le prendre et comme ça je récupère ça. Enfin, peut y avoir des stratégies autour de ça.
C'est,
mais...
c'est vrai, tu récupères toujours un bois quand on vient te raser et en même temps ton bâtiment se transforme en ruine.
C'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà, là, après moi je comprends tout à fait ce discours-là de rejeter l'interaction directe trop violente sur un jeu qui a priori est plutôt orienté gestion et jeu dans son coin.
Ça, surtout quand la partie affrontement c'est un... C'est minime par rapport à.
Surtout quand tu as l'impression des fois que c'est juste mis un peu là, allez, comme ça, on va y mettre parce que les gens, ils aiment bien l'interaction. Je comprends. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça quand c'est bien inclus. Encore une fois, je pense que certains jeux le font bien. Dans Settlers, par exemple, je trouve que c'est assez bien fait. Donc, on est toujours dans l'interaction directe, mine de rien, parce qu'on est parti de l'affrontement et de la violence du combat vers des trucs un peu plus légers, thématiquement parlant, et peut-être d'un point de vue affectif aussi, mais qui, mine de rien, sont, comme tu l'as dit, je trouve que ce que tu as dit, là, le côté ciblé et volontaire, définit
c'est,
assez
en fait,
bien
c'est
l'interaction.
C'est l'interaction agressive, en fait. On est clairement dans l'agressivité.
Alors,
on
va voir qu'il y a des interactions directes moins agressives, mais en tout cas, ciblé et volontaire me paraît intéressant.
Ouais, alors après, il y a des interactions plus nuisibles qui ne sont pas forcément dans de l'agressivité. Je ne sais pas si tu as joué à Keylus.
Oui.
Le fameux prévôt.
Los prévos.
Voilà, ce fameux prévôt qui se balade le long de la route et que tu as la possibilité de corrompre pour qu'il bouge. Et en fait, en fonction de sa position, il y a certains bâtiments sur lesquels des joueurs ont posé des ouvriers qui ne sont pas activés.
Ouais, d'accord. Ouais, je ne me rappelle pas, ça fait longtemps que j'y ai joué, donc c'est ces petits principes-là.
En fait, tu as une petite phase de programmation où tu vas venir poser tes ouvriers sur les différents bâtiments.
Les activer, ouais.
Et une fois que tout le monde a posé ses bâtiments, et ben, tu as la phase du prévôt où tu vas pouvoir le bouger de 1 à 3 bâtiments.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et chacun son tour va venir pouvoir le corrompre pour le déplacer.
C'est ça. Ouais.
Et tu n'as pas la garantie de pouvoir activer tes bâtiments. Enfin, tu n'as pas la garantie d'activer les ouvriers que tu as posés.
Alors là, déjà, pour moi, ouais, effectivement, c'est pour moi une interaction directe, mais d'un niveau inférieur quand même, à par exemple directement apporter un malus ou détruire quelque chose.
Là, on est dans la privation.
Oui, c'est
pour
ça.
Le coup. On n'est pas dans de la destruction. Alors l'effet est le même.
Les ouvriers ne sont pas écrasés par un prévôt géant qui les supprime directement.
C'est ça.
Il y avait aussi, dans les interactions pour moi qui sont directes, mais qui ne sont pas dans la destruction, il y a tout ce qui est la dynamique de commerce. Comme dans Catan, qui est encore une fois un jeu que j'affectionne assez peu, notamment à cause du commerce en fait, parce que c'est un jeu assez classique. Moi, le hasard des dés et tout ne me dérange pas plus que ça, parce que finalement, c'est des probas. Par contre, la dynamique du commerce fait que tu peux échanger des ressources, soit contre, je crois, directement le jeu, soit avec d'autres joueurs.
Alors là, c'est marrant parce que c'est de l'interaction mécanique qui déborde sur de l'interaction sociale.
En plus, ouais.
Parce que tu me disais, il y a certains, ou c'est toi ou certains joueurs ne voient pas l'intérêt de commercer dans
Catan.
C'est
ça, en fait, nous, quand on jouait à Catan, maintenant je l'ai revendu depuis un certain temps, mais les parties duraient des plombes parce qu'on ne commerçait pas, parce qu'en fait, pour que ce soit intéressant de commercer à Catan, il faut que tu en tires plus que l'autre. Mais si l'autre joue un minimum correctement, il voit bien que tu vas en tirer un avantage. Donc il dit, non, puisque je ne gagne pas autant que toi, je ne commerce pas. Et finalement, si tout le monde joue comme ça, le commerce n'existe plus. Mais en tout cas, Donc là, on ruine entre guillemets le côté interactif de Catan. Il y a d'autres interactions dans Catan, diverses et variées, mais ne serait-ce que prendre un territoire plutôt qu'un autre. Bref, ça c'est plus de l'indirect justement. Mais cette interaction de commerce que moi je trouve ratée est pour le coup vraiment directe parce que tu es là et tu dis bon bah tiens, on se fait des échanges de main en main. Il y a d'autres jeux hein, qui utilisent le commerce.
Alors,
hein,
moi je vais pouvoir construire ma ville et toi tu pourras construire ta route. Mais du coup, ça nous fait tous les deux avancer en même temps.
Mais au-delà même, encore une fois, de la qualité de cette interaction, c'est une interaction directe qui n'est pas de l'affrontement, qui est vraiment de l'échange de cartes. Donc ça montre que l'interaction directe ne veut pas dire la bagarre ou la destruction ou les malus ou les pénalités. Ça peut être parfois plutôt positif ou en tout cas du win-win ou négociation.
Et en plus, tu as le méca du voleur qui est là pour... Alors c'est plus que de la privation puisque là, c'est assimilé à de la destruction de ressources.
Yes, ouais. C'est vrai. Donc voilà, le commerce est encore un bon exemple d'interaction directe, un peu différent de ce qu'on a dit avant. C'est vraiment quand tu fais des actions avec ou contre tes adversaires. Je pense qu'il y a même dans les jeux coop notamment des interactions qui peuvent être uniquement bénéfiques où toi t'as rien à en retirer en tant que joueur, mais par contre ton équipe ou l'autre joueur va avoir en tirer quelque chose.
Ouais, mais à partir du moment où tu joues un jeu coop, ouais, une action bénéfique pour l'un, elle est pour tous.
A priori. Oui.
Sauf si t'as un félon ou si t'as une méca qui vient un petit peu contrer ça.
Un autre truc qui est pourri, interaction directe où tu vas pas le faire pour toi, mais contre un autre joueur. Et vraiment pas dans le but de gagner, mais juste pour empêcher, c'est le kingmaking. Où là, tu vas jouer non pas pour toi, mais contre un autre, sans que ça te rapporte rien à toi, mais ça va rapporter par exemple, je sais pas, à Maxime, alors que je sais pas, Léa, t'as pas envie qu'elle gagne, parce que je sais pas, t'as une dent contre elle pour une quelconque raison, je sais pas.
Ça, c'est l'inverse, l'effet inverse du commerce, parce qu'avant, c'est l'interaction mécanique qui déborde dans l'interaction sociale.
C'est le social qui déborde sur le mécanique. Du coup, le kingmaking, c'est des interactions directes. Ah bon, bah tiens, bah, je lui donne, on fait du commerce, tiens, je reprends l'exemple du commerce, mais je lui donne plein de trucs parce que je m'y autorise, juste pour que tu perdes. Moi, je finirai dernier de toute façon. Mais du coup, le kingmaking. Peut générer des interactions directes qui ne sont pas bénéfiques pour le joueur qui les fait.
En fait, j'allais dire au début que c'est un problème de lecture de situation, mais non, c'était volontaire d'avantager quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'après, il peut aussi y avoir des échanges qui, des fois, sont juste défavorables, mais sans que le joueur s'en rende compte.
Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est le problème de l'inégalité des joueurs devant le jeu, selon la compréhension du jeu ou non.
Oui, tout à fait. Alors on avait commencé à parler aussi des interactions bénéfiques qu'on peut avoir. Alors ça, c'est dans les jeux qu'on va avoir comme dans Puerto Rico, comme dans Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, où en fait, l'action que tu vas choisir va ouvrir soit la même action aux autres joueurs, soit va ouvrir de nouvelles actions qui en sont la conséquence.
Ouais.
Alors bon.
Bon, là, on est plutôt. Je trouve que c'est plus de l'interaction indirecte parce que tu le fais pas directement en ciblant un joueur, tu le fais pour toi et les autres en bénéficient.
C'est ça, ouais. C'est un peu un effet collatéral.
Ouais.
C'est un petit peu quand il y a certains jeux comme ça où le fait d'acheter une carte, par exemple, ça va rendre les suivantes disponibles. Alors, du coup. Pas pour toi, peut-être, mais peut-être qu'un autre joueur va pouvoir en profiter et ça va lui rendre un
effet bénéfique. Mais là, il y a le côté volontaire qui est moins présent. Alors, c'est volontaire de faire l'action, tu sais que ça va entraîner ça, mais c'est pas volontaire de dévoiler la carte suivante, quoi. On est moins dans... Enfin, pour moi, on est moins dans l'action, dans l'interaction directe. Tu voulais revenir sur d'autres bénéfiques encore ou...
Non.
Non. Juste, on parlait d'affrontement. Du coup, même si c'est pas forcément toujours le cas, les jeux à deux... typiquement peuvent être souvent le lieu d'interaction directe parce qu'on est l'un contre l'autre. C'est pas toujours le cas, il y a plein de jeux à deux où on joue plus ou moins dans son coin, hein, faut pas en faire une généralité, mais en tout cas ça peut être un lieu privilégié pour ça aussi. Tu parlais des wargames notamment, je parlais des jeux de figurines, on n'est pas obligé de jouer à deux, mais voilà.
Après, les échecs et compagnie. Si tu veux des jeux à deux qui puissent être jouables en couple, il faut pas que des jeux d'affrontement.
Et là, on parlera aussi des interactions sociales autour de la table, du jeu en couple qui ruine vos soirées entre amis.
C'est ça, oui.
Du coup, on peut peut-être partir sur je vais arrêter de dire du coup, sur les interactions indirectes, où là encore, il y a plusieurs degrés d'interactions indirectes. Donc, on a parlé de destruction, de privation. Alors, est-ce que tu as quelques exemples comme ça de... Alors, tu en as déjà cité avec les interactions, entre guillemets, bénéfiques, où tu fais une action et ça en libère d'autres pour...
Bah, il y a... y a les mécaniques de privation, mais qui fonctionnent plus par réservation d'emplacement.
Ouais, le jeu d'ouvrier, c'est du acariâtre. Ouais.
Voilà.
Les ouvriers, mais pas tous en même temps, sinon ils se regroupent et puis après ils font un syndicat.
Voilà, c'est ça. Et après il y a le piquet de grève, c'est ça.
Exactement.
Non, sinon, la, dans la partie. Parce que souvent, la privation est synonyme de course.
Ouais, pas forcément, mais enfin.
Parce que tu vas souvent te précipiter pour essayer d'obtenir le bâtiment qui t'intéresse ou l'objectif qui t'intéresse avant les autres, bien sûr, si possible.
Alors ça peut être aussi parmi plusieurs actions, celle qui toi t'intéresse le plus, qui pourrait aussi intéresser d'autres joueurs, mais après ça dépend si tu joues plus pour toi ou enfin voilà, l'interaction en fait, le degré va aussi définir si ce que tu le fais d'abord pour toi ou pour toi, mais aussi en sachant que ça embête les autres ou si tu le fais principalement pour embêter les autres.
Ouais, est-ce que tu vas aller acheter cette carte parce qu'elle va avoir aucun effet dans ta stratégie, mais simplement elle va venir complètement détruire la stratégie de scoring d'un autre joueur.
Ouais, par exemple. Même si en général, dans les jeux, disons plutôt à l'allemande, c'est difficile de se dire enfin, c'est délicat parce que tu n'en retires rien. Enfin, c'est toujours le différentiel de points que tu gagnes et que l'autre ne gagne pas.
Pas, voilà, ouais. Et généralement, le simple fait de nuire n'est pas suffisant. Ouais. Après, tu peux avoir ce plaisir, s'il peut y en avoir ou pas. Enfin,
mais ça ne te mènera pas toujours à la victoire.
Voilà, où tu vas juste essayer de. Tu sais que c'est foutu pour foutu.
Tu vas péter la partie.
Ouais, non, mais pas forcément la péter, mais en tout cas, faire éviter que les scores s'envolent.
Ouais. Ouais, donc effectivement, il y a ça. Moi, ça me paraît enfin, on le trouve dans plein de jeux d'ouvriers où finalement les emplacements sur un lieu sont limités. Je parlais de The River tout à l'heure, il y a le cas pour certaines actions. Donc Aelus, le fait de se mettre sur certains bâtiments empêche les autres de s'y mettre. Dans Great Western Tale, il y a aussi ça. Avec en plus le fait que si les autres, je crois, passent sur tes bâtiments, tu en tires un privilège.
T'as un point.
Donc là aussi, il y a une interaction. Tu le fais aussi dans le but de cette interaction en disant « Ah bah je vais le mettre à cet endroit parce qu'il y a du passage. » Donc les autres joueurs vont me rapporter quelque chose.
Ouais, donc là, ça veut dire que tu construis un bâtiment non pas parce que toi, tu comptes l'utiliser, mais tu sais que ça va te rapporter. En fait, c'est un peu un investissement.
Mais tu paries sur l'interaction, en fait.
Ouais.
Mais donc, c'est vrai que ça, on le retrouve souvent dans les Lewis et Clark aussi. Je crois qu'il y a ça, certaines actions qui sont limitées, il me semble.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans les jeux d'ouvriers, hein, mine de rien.
Ouais, telle case va pouvoir être activée par au maximum 1, 2 ou 3 ouvriers, par exemple.
Et là, ça va être justement un équilibrage, en fait, qui va dépendre du jeu. Si tu veux le faire plus ou moins frustrant, si tu veux le faire plus ou moins tendu, si telle action, tu veux la rendre importante dans ton jeu et bénéfique vraiment, et donc mettre de l'enjeu dessus, ou si tu te dis, bon, c'est, je sais pas, par exemple, dans l'âge de pierre, le fait d'aller chasser, il n'y a pas de limite, parce que c'est une action de pis-aller, dont tu peux avoir besoin à certains moments, mais sinon, bon, ça ne vaut pas le coup de les enlever, ça permet au moins aux joueurs de faire quelque chose quand même, même s'il n'y a rien qui l'intéresse.
Il y a un type d'interaction indirecte que je trouve vraiment excellent et qui, pour le coup, est presque assimilable à de l'affrontement puisque ça génère une destruction. C'est dans Puerto Rico. Mm-hmm. Lorsque tu arrives à te réserver un bateau et qu'un joueur ne va pas pouvoir poser ses caisses de ressources et qu'il n'a pas d'entrepôt pour les stocker.
Ah oui, ça c'est très vicieux.
Il va être obligé de s'en débarrasser. Donc là, pour le coup, tu ne vas pas lui détruire.
Et l'action que tu vas faire va avoir,
conséquence de lui saccager totalement sa production. Est-ce que c'est plus ou moins agressif qu'une attaque
c'est
frontale
plus, c'est,
ça
plus c'est plus vicieux.
C'est plus vicieux, oui, c'est vrai.
Il y a aussi dans Vanuatu, pour reprendre un exemple de jeu dit à l'allemande, mais qui a de la forte, très très forte interaction parce que. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment. Tu peux cibler un joueur par tes actions, mais c'est pas. De l'affrontement ou des malus, c'est, je sais pas si tu vois, mais en gros, les actions qu'on peut faire se choisissent en plaçant des pions et ça va se résoudre par majorité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir la faire si tu es majoritaire sur l'action, si c'est toi le premier.
Ouais.
Des fois, tu prépares, alors je cite souvent un exemple, mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup qui peut être très très dur pour certains à vivre, mais en gros, tu prévois de te déplacer, de pêcher et de vendre. Par exemple.
Ah oui, alors faut le faire dans le bon ordre.
C'est ça. Mmh. Et en fait, par le placement des points d'action, en fait, si quelqu'un fait se déplacer avant toi et que du coup tu dois faire pêcher avant, alors qu'il n'y a pas de poisson sur ta case, il t'a pourri ton tour. Il y a des tours à Vanuatu qui sont vides à cause de ça. Et ça peut être très frustrant, hein, Vanuatu, pour le coup. Mais ce côté majorité et être premier pour faire l'action, et que quand tu es premier, tu dois faire l'action, peut mener à ça. Et du coup, c'est très interactif, le choix des actions, en disant « Ah ben là, je vais faire ça, c'est positif pour moi, et surtout, je vais l'empêcher de faire ça, et je vais lui niquer son tour. » De A à Z.
Du coup, c'est presque de la programmation indirecte, là.
Oui, oui, clairement, ouais. On est un peu dans, là-dedans. En tout cas, voilà. Après, il y a aussi donc, tous les jeux d'ouvriers où là, on est plus dans la privation. Il y a aussi le fait de piocher, tout simplement. Alors que ce soit des cartes visibles ou non. Dans Dominion, par exemple. Ou bon. Quand tu prends des cartes, si tu vides un paquet... Ou dans Ascension, pour prendre un exemple, ouais, où il y a moins de cartes sur le paquet.
Il y en a beaucoup, ouais, j'allais dire. Il y a beaucoup de cartes.
Ouais, on peut peut-être parler d'Ascension, qui est un autre deck building.
Ouais, ou... Bon, après, si tu essaies de miser sur la privation d'une carte pour un joueur, tu te prives toi-même des autres.
Après, là encore, on est dans l'équilibre de... tu la prends parce que, pour toi, elle n'est pas totalement inutile, alors que lui, elle lui serait très utile. On est encore dans l'équilibre dont on parlait avant. Mais d'ailleurs, on peut faire un petit comparo, justement, sur une interaction... de différents deck building, c'est intéressant parce que c'est plus ou moins la même mécanique, mais le fait qu'il y ait une rivière ou non, déjà, va pas générer la même interaction. Ouais. La présence d'une rivière, justement, va induire le côté privation. Ah, je le prends parce que sinon, il risque de le prendre au prochain tour. Alors, on peut prendre, par exemple...
tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu as Star Realms qui va regrouper les deux, puisque tu as l'affrontement la direct des points de victoire direct, et la privation avec l'achat des cartes.
Et du coup, on peut prendre, par exemple, Dominion, Star Realms et Ascension, qui sont trois deck building que moi, j'aime bien.
On va refaire l'épisode de D comme deck building.
C'est ça, mais dont l'interaction est très différente entre les trois, je trouve. Je sais pas si tu as joué aux trois.
Oui, on a joué aux trois ensemble, en plus.
Oui, c'est vrai, en plus. Quelle chance. Et du coup, dans Dominion, l'interaction... Elle est un peu, elle a plusieurs formes.
Moi, ça me dérange pas quand dans Dominion tu joues et qu'il y a pas de carte qui fasse défausser les autres. À la rigueur, la carte.
Je sais que ça pouvait être une critique au début de certains trucs qui disaient, il faut absolument jouer avec l'intrigue, sinon c'est chacun qui joue dans son coin.
Ouais, mais
après ça c'est des sensibilités. De
Non, parce que même si d'apparence il y a peu d'interactions, je veux dire, t'es toujours en train de discuter, même quand tu joues à Dominion et. Et t'es là en train de comparer les cartes et tu vois sur quoi partent les autres.
Et du coup, là, on est vraiment dans de l'interaction assez indirecte, je trouve, dans Dominion, en dehors des cartes directement malédiction ou autres qui ont une action sur les autres.
Les cartes nuisances, en gros. Quoi.
Mais il y a quand même de l'interaction indirecte qui est, tu l'as dit, les cartes vers lesquelles on se dirige, les paquets qui se vident les premiers, le fait d'accélérer ou non la fin de partie...
Après,
de prendre les provinces, les trucs, c'est quoi province, domaine et puis
duché,
c'est province le mieux. Voilà, la façon dont tu les prends, ah mince, il n'y en a plus beaucoup.
Alors après, dans les jeux de deck building, je préférais presque encore train au pluriel, à Dominion, alors qu'ils sont deux jeux vraiment très similaires. Mais là, tu as quand même le plateau en plus qui va permettre d'augmenter l'interaction indirecte puisque les rails que tu vas placer.
Un peu comme dans les aventuriers du rail, ça bloque. Enfin, les autres ne peuvent pas se placer dessus.
Alors, ils peuvent, mais ça va leur augmenter le coût.
Ah, ok.
Et après, tu as juste certains lieux où tu vas pouvoir poser tes rails qui sont des lieux éloignés où ceux-là, il y a qu'un seul joueur qui peut les atteindre. Donc tu as un petit phénomène de course en fait, sur les objectifs.
Est-ce que pour reprendre de l'interaction indirecte, là, pour rester sur les trains, puisque dans le deck building, les aventuriers du rail, effectivement, tu prends un certain nombre de trucs, tu vérifies, il me semble qu'il a pris beaucoup de wagons jaunes ou de trucs, il va peut-être faire cette ligne. Et il y a le phénomène de course dont tu parlais plus tôt, où moi je vise cet objectif-là, donc il faut que je le fasse quand même relativement rapidement. Donc si on repart sur les deck building, donc Dominion, surtout indirect de ce qu'on a dit, même si encore une fois il y a certaines cartes qui permettent la plus directe. Ascension, lui, a sa rivière, et les cartes sont uniques, donc c'est en tout cas en beaucoup moins d'exemplaires que dans Dominion. Donc ça a introduit un autre type d'interaction, quoi.
C'est ce qu'on pourrait appeler une race condition, quoi. Si les deux sont intéressés par la même carte, il va y avoir
notamment les monstres.
Ouais, qui sont assez puissants en plus.
Et qu'on tabasse et qui eux sont défaussés ou viennent chez toi s'ils ont des conditions particulières.
Alors que le cultiste, celui-là, tu peux le peux lui mettre un coup à chaque tour.
Ah bon, je tape le cultiste. Les fameux.
L'action par défaut.
Ouais, taper du cultiste. Et donc là, on est plus dans le phénomène de rivière et de je le prends parce que ça l'empêche et c'est presque une carte unique. Et par moment, ça fait aussi ce genre de truc que ça peut être très frustrant parce que en fait, t'as l'impression que lui, il a pu l'avoir juste parce qu'elle est sortie à son tour.
Oui, après, dans les jeux à rivière, pour Star Realms par exemple, ou Hero Realms, ça doit être. Non, Hero Realms, c'est un peu différent. Bref. Mais les cartes sont quand même en multi-exemplaires, donc tu sais que ça va.
Ah, ouais, mais certaines sont rares. Je veux dire, les deux haches là dans l'ascension, si l'autre il a eu la chance de l'avoir, tu te dis putain, faut vraiment pas que je les laisse. Et que bim, comme par hasard, au moment où lui joue, et ben l'autre elle sort. Et qui, bon, il faut qu'il ait la thune pour l'acheter, mais ça peut être frustrant. Cela dit, ça génère un autre type d'interaction où tu te dis, ok, alors peut-être que je ne vais pas acheter parce que je n'ai pas envie d'en révéler une autre, qu'il en ait une autre révélée.
Ouais, là, tu commences à raisonner au deuxième degré. Alors.
Ouais, c'est enfin, ça. Mais
deuxième niveau d'indirection.
Si le mec a cette fameuse hache, les joueurs d'ascension voient les deux haches dont je parle, c'est dans la boîte violette, la Storm of Souls, des âmes déchaînées. Si tu as les deux haches, c'est hyper puissant en gros. Là, tu peux commencer à réfléchir comme ça en te disant « Ok, donc je ne vais pas faire ça parce que comme ça, ça ne va pas révéler une autre carte, donc il ne pourra pas la prendre. » Donc, tu es sur de l'interaction à plus long terme. Quoi, mais... Ouais. Mais c'est quelque chose que moi je fais enfin, régulièrement dans les jeux où tu te dis « Ah ouais, mais vraiment, est-ce que je prends cette carte ou pas ?» parce que j'ai peur de ce que ça va lui révéler. Donc...
Ouais, bon après, est-ce que tu peux lire la stratégie complète d'un joueur à partir d'une carte qu'il va prendre ?
Bah, s'il a la première hache, hein, moi je fais gaffe. Et donc dans Star Realms, troisième exemple que tu citais, là il y a encore l'interaction encore plus directe.
Ouais, puisque là tu vas directement attaquer les points de victoire et le faire chuter à zéro si possible pour remporter la partie.
Mais donc c'est intéressant de voir que dans... Et t'as cité Trains encore, un autre exemple de deck building.
Et juste encore sur Star Realms, c'est comme tu vas pouvoir composer ton jeu et essayer d'avoir les effets bénéfiques, ben, là tu vas carrément observer, tiens, ben, il est parti sur le bleu va combiner avec ça, et des fois tu vas carrément acheter une carte, peut-être qui ne t'intéresse pas, parce que tu sais qu'elle va très bien comboter avec... Ouais. Bon, c'est un peu comme la mécanique de la hache, quoi. Mais là, c'est pas sur une carte unique, c'est sur un set complet en fait, de cartes.
Ouais, et puis ça peut être vrai aussi dans Ascension, parce que l'Ascension a aussi ses factions qui entrent en combo entre elles. Mais donc voilà, sur différents deck building qui ont quand même des bases de jeu en tout cas similaires, on voit que l'interaction peut être menée de façon tout à fait différente par les auteurs et les autrices.
Et si on veut rester sur les jeux de cartes, on peut enchaîner sur la partie draft.
Oui, qui là, est une interaction très intéressante.
Une interaction importante, encore une fois, ben, qui peut être nuisible hein, quand même.
Ça peut, mais c'est moins direct. Enfin, moi, je le mets quand même dans l'interaction indirecte. Souvent, en tout cas, elle est utilisée comme ça.
Bah, dans Terraforming Mars, par exemple, si tu le joues en mode draft, si tu vois les cartes que tu as en main, tu vois sur quelle stratégie est parti l'adversaire, bah, tu sais que bah, tu vas récupérer ce projet, parce que si tu lui passes, ça va faire un effet boule de neige sur son scoring.
C'est de la privation, effectivement, c'est pas de la destruction.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est de la privation sans frustration, parce que le gars, il aura peut-être pas su que tu lui as enlevé la carte.
À la fin de la partie, je lui dis, regarde ce qui te manquait.
C'est ça. Et au final, tu l'as revendu avec l'action.
De la même manière, d'ailleurs, dans Race ou dans Puerto Rico, tu peux ne pas choisir une action parce que tu te dis, ah, mais j'ai pas envie que lui profite de ça.
Bah ouais, clairement. Tu prends l'action pour produire des marchandises, par exemple. Bah, tu sais que toi, ça va t'en faire produire plus. Mais si lui, il a acheté le bâtiment qui lui permet de bénéficier du même privilège que si c'est lui qui avait choisi le perso, bah, t'as aucun intérêt à le faire produire et qu'il puisse produire à cause de ton action.
Je reviens tout à l'heure, j'ai dû dire Western Town là, pour les trucs. C'est. Pas Western Town, c'est Great Western. Voilà. J'ai confondu les deux à cause du Western. Donc, ouais, le draft pour moi est effectivement assez intéressant de ce point de vue-là. Quoi, Seven Wonders est un exemple, Sushi Go, un autre, y a de l'interaction, puisqu'en fait, tu sais ce que tu laisses au suivant, hein, tu sais ce que l'autre avait avant toi. Enfin, moi, je trouve que c'est une mécanique que j'adore pas mal. Le draft, de manière générale, est.
Il y a un peu de pari aussi dedans, en fait, puisque tu espères que le truc revienne.
Oui, il y a également ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment une mécanique très interactive, mine de rien, entre les joueurs, qui crée de l'interaction assez facilement. Et en fait, tu réfléchis à l'interaction assez vite. Tu es rapidement à te dire, mais je peux prendre ça, mais en même temps, je ne vais pas lui laisser ça quand même. Enfin, ou bien...
Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un peu un contrat social sur le jeu. C'est que tout le monde observe les autres.
Ouais, c'est ça.
Parce que s'il y a un joueur qui ne fait que se contenter d'observer son propre jeu et qui ne fait pas gaffe à ce qui va passer, ça va créer un déséquilibre.
Et du coup, il y a aussi le côté interaction sociale où des fois tu dis je ne peux pas le prendre parce qu'il y en a une qui m'intéresse trop, mais fais gaffe parce que lui, tu vois, il va l'avoir. Je te conseille de la prendre quand même, quoi, parce que sinon tu vas lui laisser. Et là, on entre dans la parlotte, on en parlera après un peu des interactions sociales.
Alors, ça, c'est l'effet leader dans les jeux compétitifs.
C'est ça. D'ailleurs. Un truc qui pourrait être intéressant comme draft, je crois pas que ça existe trop, c'est des trucs où il y a que des effets négatifs en fait. Et où finalement tu essayes juste de te débarrasser et du coup tu laisses les plus pourris possibles à ceux qui suivent, mais qui peut-être dans leur stratégie seront moins pourris que ce que tu avais prévu. Il me semblait pas que ça existe trop. Alors, des trucs. T'as juste des cartes pourries et il faut perdre le moins possible en fait.
Ah, t'as peut-être Elixir dans.
Ouais, ou Last Will aussi. Ou le but... Non, parce que Last Will, le but c'est de plus dépenser. Enfin bon.
Ah, ou les colocs. Je sais pas si t'as joué.
J'ai dû jouer il y a un certain temps. Mais... Donc voilà, ça c'est le draft effectivement qui est quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Après, si on veut rester un peu dans. J'ai parlé déjà de la pioche qui bloque la disponibilité. Dans l'ensemble, en fait, c'est vrai que souvent, c'est les jeux à l'allemande qu'on présente comme de l'interaction indirecte parce que les gens veulent beaucoup de contrôle.
Parce qu'il n'y a pas d'affrontement, au final.
Parce que les gens veulent contrôler leur jeu.
Ouais.
Et qu'il n'y ait pas de. C'est pour ça aussi qu'ils n'aiment pas les dés ou l'aléa. C'est parce que, même si les jeux aléa, pour le coup, finalement, sont des bons jeux à l'allemande en général. Enfin, pas toujours, mais. Mais du coup, c'est vrai que c'est préserver en fait la maîtrise de son jeu, donc que ce soit par les actions des autres joueurs ou par l'aléatoire qui pourrait
se protéger
venir.
Du hasard et des interactions, on pourrait presque dire.
Ouais, mais
il y en a quand même. Donc,
et mine de rien, moi je trouve que
se protéger des effets nuisibles en fait des autres joueurs et des effets nuisibles du hasard.
Ou des effets trop qui viennent te casser ta stratégie sans que tu aies rien pu faire dessus, c'est parce que lui a décidé de me péter ma stratégie. Mais mine de rien, moi, ce que je préfère comme jeu, entre guillemets, à l'allemande, c'est ceux qui, quand même, vont réussir à intégrer subtilement l'interaction, que ce soit thématiquement ou mécaniquement. Quoi.
Et pour le coup, il n'y en a pas beaucoup.
Il y a Western Town, le vrai Western Town, pas Great Western, qui le faisait très bien. Alors, j'y ai joué il y a longtemps, mais c'est un jeu qui mériterait d'être remis sur le devant. Enfin, il avait vraiment des choses très intéressantes à proposer. Où il y avait des interactions assez intéressantes. Alors, j'ai plus de souvenirs, mais en tout cas, je me rappelle qu'on devait jouer des cartes en même temps et tout. Et thématiquement, ça rentrait en résonance parce que les actions étaient. Enfin, c'était vraiment cool. Et également, Keyflower, qui va nous permettre d'embrayer sur un autre type d'interaction. Mais Keyflower, il y a énormément d'interactions. Je veux dire, tu poses tes mecs chez les autres.
Mécanique de privation.
Mécanique de privation, parce que ce que tu prends. Voilà, tu vas. Enfin...
Après, il en tire un bénéfice, non, quand tu te poses chez eux.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même l'action d'aller se poser chez eux. Quoi.
Ouais, et le bénéfice est moindre que s'il l'avait lui-même posé.
Je crois qu'il récupère les bonhommes sur son village, donc il récupère les tiens aussi.
C'est ça.
Mais donc interaction directe, parce que tu vas là-bas pour choper des ressources ou pour choper du mouvement.
Mais du coup, ça c'est extrêmement violent au dernier tour, puisque les bonhommes ne lui serviront plus pour
le décompte.
Pour les enchères. Ah, peut-être le décompte,
Je ne sais plus. Mais donc, il y a ça, il y a le système de bateau, les systèmes de majorité aussi, beaucoup d'interactions évidemment, que ce soit Tikal, que ce soit Keyflower. Et donc.
Et on retrouve un terme là qu'on a déjà parlé et qu'on a dans Keyflower. L'enchère,
ouais, exact. Et qui est vraiment un système d'interaction très fort, quoi.
Et qui peut être violent, enfin qui peut être très agressif au final.
Ouais, là aussi, ça dépend comment elle est créée par l'auteur ou l'autrice, mais.
Et encore, les ressources sont cachées à Keyflower, enfin les ressources ouvrières.
Ouais, derrière le paravent. Après, c'est souvent dans Modern Art également. Il me semble que la plupart des ressources sont planquées derrière.
Ah, parce que tu peux artificiellement faire augmenter le prix. Pour
ouais, alors après, la plupart des jeux d'enchères disent quand même vous ne pouvez pas proposer plus que ce que vous avez.
Ouais, bien sûr. Non, mais tu peux volontairement...
Tu peux faire croire que...
Ouais.
Ouais. Après, dans Keyflower, donc, pour rebondir là-dessus, comme c'est ce qui nous... C'est vraiment un jeu catégorisé comme à l'allemande et pourtant, les interactions sont très fortes, à la fois par le placement chez les autres joueurs et par ces enchères qui sont super intéressantes parce que des fois, tu te places à un endroit pas pour récupérer la tuile, donc mécanisme de privation puisque la tuile que tu prends les autres ne l'auront pas, mais parce que tu espères te faire chasser pour aller te mettre ailleurs, ce genre de truc.
Et en même temps tu fais, c'est là où tu fais artificiellement monter le prix.
Ouais.
Parce que si quelqu'un la veut,
il est obligé de monter, alors c'est un risque.
Ouais, c'est un risque, du coup tu vas pas le faire sur une tuile qui t'intéresse pas du tout.
Ouais. Mais donc là il y a vraiment une interaction aussi assez forte là-dedans et moi je sais que c'est un de mes jeux préférés des 5-10 dernières années, Keyflower, pour toutes ces raisons quoi. Et qui gère justement très très bien l'interaction et l'imbrication des différentes mécaniques, donc voilà les jeux d'enchères,
pur jeu allemand.
Donc on a dit pour les enchères art moderne également, voilà ce genre de jeu, il y en a d'autres on voulait éventuellement parler des Roll and Write aussi. Alors, ça va rejoindre un peu la discussion qu'on avait sur les jeux symétriques ou asymétriques.
Donc, Cyrus, tu peux interrompre cet épisode.
Voilà, à tout à l'heure, mais dans 5 minutes. Donc, les Roll and Write, on ne va pas vous présenter les Roll and Write. Tyrus fera sûrement un épisode. Sortons le grand Ron and White.
En plus, on a juste fait une partie de Corinthe, juste avant d'enregistrer.
Ouais, tout à fait, de Sébastien Pochon. Et pour le coup, on pourrait se dire, oui, bon, bah, y a très peu d'interactions, puisqu'on lance les dés, ou bien on tire les cartes à Welcome. Et tout le monde, en fait, peut faire l'action exactement la même, quoi. Mais pourtant, il y a quand même quelques petits trucs.
Ah bah non, pas dans Corinthe.
Pas dans Corinthe, ouais. Oui. Dans Corinthe, pour le coup, il y a une interaction.
C'est le premier joueur qui choisit, comme dans Hispahan, c'est un dérivé d'Hispahan, de toute façon. C'est le jeu de dés de Hispahan.
Ouais, c'est même Sébastien qui l'a écrit lui-même. Mais oui, donc là, tu as la mécanique de privation qui est là de toute façon.
Ouais, puisque tu vas prendre les dés en premier et les autres slots où il y a des dés, tu es obligé de faire avec ce qui reste. Quoi.
Exactement. Mmh. Mais après, dans Welcome, pour reprendre Welcome,
Toutes les cartes restent disponibles pour tout le monde.
C'est ça. Et chacun, tous les joueurs autour de la table, qu'ils soient 2 ou 100, puisqu'on peut jouer jusqu'à 100, peuvent faire la même action à chaque tour de jeu. Et donc on pourrait se dire tout le monde fait pareil, et finalement c'est amusant parce qu'on se disait que peut-être que c'est des jeux qui se rapprochent le plus de la symétrie, enfin de la plus loin symétrie, ouais. Et il y a un peu de ça, mais il y a quand même de l'interaction,
il y a quand même l'interaction avec les objectifs,
les contrats que t'es le premier à remplir.
Ouais, mais tu peux pas empêcher les autres de réaliser le contrat.
Non, mais par contre tu marques plus de points si t'es le premier. Donc là, on retrouve la mécanique de course dont tu parlais plus tôt.
Ouais, mais c'est une course sans obstacle.
Ouais, c'est pas comme dans Splendor où le noble, tu le prends et les autres ne l'ont pas.
C'est ça, ouais.
Mais il y a quand même aussi, mine de rien, et là, on atteint un niveau d'interaction qui est assez bas dans le jeu de société, c'est vraiment juste l'adaptation à la stratégie. C'est-à-dire tu vois que lui, il part plutôt vers ça. Du coup, peut-être que pour te démarquer, il ne faut pas que tu partes toi aussi sur les piscines ou sur les parcs, même si tu peux le faire un petit peu. Mais peut-être que tu vas lui faire à l'envers parce que du coup, tu vois qu'il n'a pas beaucoup misé là-dessus. Donc toi, ça vaut le coup que tu mises plus dessus. Quoi.
Ouais, non, il faut carrément abandonner telle stratégie dans ces jeux-là. Où tu peux pas venir freiner en fait, un joueur sur sa stratégie, il faut changer de cap.
Et après, dans Welcome, je ne sais plus ce que c'est l'action, mais il y a aussi une action de majorité où si t'es le premier, il y a le premier, le deuxième et le troisième, je crois, dans cette action qui gagne un certain nombre de points.
C'est les contrats de travail temporaire, non ?
Je crois, ouais, intérim, quelque chose comme ça. Donc il y a encore ça comme interaction qui se rajoute. Donc il y en a quand même. Et donc, pour rebondir encore sur les jeux symétriques, Blue nous parlait du Scrabble Duplicate, le fameux. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'interaction entre les joueurs, puisqu'on prend à chaque fois le meilleur résultat et que les autres ne sont pas conservés, c'était ce qu'on avait trouvé de plus symétrique comme jeu,
ouais.
Il me semble.
Après, est-ce que c'est un jeu sans interaction ?
Je pense qu'en fait, tes propositions peuvent évoluer en fonction de celles des autres et tout, donc
ouais.
Il va y avoir une interaction de
d'inspiration,
toute façon.
Ouais.
Mais en tout cas, ça reste à très bas niveau. Donc voilà, ça c'était juste pour parler de Ron & White pour emmerder Cyrus. Hein. donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour des interactions mécaniques. Il y a aussi tout le bluff, mais là on va dériver du coup sur des interactions sociales aussi, j'imagine.
Ouais. Et même presque sur des compétences sociales, parce que la manipulation, le bluff, la parlotte, tout ça va avoir des effets sur le jeu.
Ouais. Je réfléchis, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour des interactions indirectes. Comme dit, il y en a vraiment de beaucoup de sortes. Donc n'hésitez pas si on oubliait quelque chose qui vous a marqué en termes d'interaction.
Ouais, ou un jeu dans lequel une interaction particulière vous a laissé des séquelles ou des souvenirs
des bons
intéressants.
Souvenirs, ouais. Et du coup, ouais, on peut parler maintenant. On a parlé de l'interaction au sein même du jeu et définie par les règles. Et on va parler d'un truc qui a tout le temps, forcément, de manière consciente ou non, c'est de toute façon, dans un jeu, il y a de l'interaction. Encore une fois, peut-être pas si c'est un jeu solo, mais où tu es tout seul. Mais parce qu'il y a du monde autour de la table, quoi. Et par les parties successives, etc., ça va créer des interactions différentes.
Et même le ressenti va être totalement... Bon, ça, on l'a déjà dit, mais le ressenti va être totalement différent en fonction des personnes qui sont autour de la table.
Ouais, oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Le grand, dans le jeu de société, il y a société. Du coup, on peut citer quelques interactions qu'on peut avoir autour d'une table et qui vont, mine de rien, souvent en fait, plus souvent qu'on le pense, influencer la façon dont la partie se déroule. Finalement, la partie, c'est pas un truc qui se crée ex nihilo où tout le monde joue pareil. Il va y avoir les règles, mais il va y avoir aussi la façon dont les gens les comprennent et la façon dont les gens les appliquent, quoi.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une partie de limiter une interaction nuisible pour ne pas déclencher de la colère chez un joueur?
Alors moi, jamais. Moi, je m'en fous. Écoute, c'est dans le cadre du jeu, en fait. C'est tout le plaisir du jeu, c'est de pouvoir écraser ses ennemis. C'est quoi dans Conan? Un truc
c'est
avec leurs femmes et puis leurs enfants aussi. Voilà, enfin, il y a une citation.
Il y a une phrase comme ça.
Voilà, c'est ça. Vous la retrouverez, vous me la citerez en commentaire. Voilà. Mais en tout cas, oui, non, moi, j'ai aucun scrupule là-dedans parce que c'est le cadre du jeu. Donc, finalement, il n'y a aucune violence là-dedans. Au contraire, comme on peut parler des jeux vidéo violents, blablabla, etc., ça peut être aussi un moyen d'exorciser tout ça, toute la méchanceté qu'on a en nous. Tu vois, plutôt que de taper sur les enfants à l'école, et ben voilà, je fais souffrir ma compagne à Corinthe, voilà, grande souffrance s'il en est. Non, moi personnellement, en tout cas, j'ai pas ça. Mais par contre, je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent dans certaines parties et qui m'exaspère. Je sais pas si toi ça t'est arrivé. Alors si je vois quelqu'un en dépression et que le jeu de société est vraiment pour lui un moyen là de gagner qui va lui mettre du baume au cœur, alors peut-être que je vais le faire. Si ça m'est arrivé au Monopoly, écoute, figure-toi, quand j'étais jeune, j'étais triste de voir les gens perdre. Et du coup, je leur donnais de l'argent.
Tu leur glissais un billet
Ouais, je leur donnais de l'argent ou des trucs comme ça. Après, c'est le Monopoly. Hein. Déjà, à l'époque, je pense que j'avais compris que ce n'était pas très important de gagner ou de perdre.
Ça, c'est le problème, en fait, avec les personnes qui s'investissent trop dans la victoire. Alors, il y avait un petit débat sur Twitter assez récemment, là, où c'est Monsieur Blue qui disait que si tu ne joues pas pour gagner, tu ne respectes pas les règles du jeu.
Ouais, alors, bon, moi, là, pour le coup, ce serait un débat qui dépasserait le cadre de l'interaction, mais... Ouais, je suis pas forcément d'accord. Enfin, je suis pas sûr que ce soit le but du jeu.
Ouais. Ça m'est arrivé assez récemment dans une partie de Keylus, tu vois, où je pouvais vraiment déplacer le prévôt et ruiner totalement le tour de bah, quasiment tous les joueurs autour de la table. Et je me suis un petit peu restreint.
Mmh. Oui,
alors,
ça m'a
pas handicapé pour
voilà,
autant.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est du moment que tu peux gagner, mais sans écraser les autres.
Non, j'ai pas gagné pour autant, mais je pouvais faire d'autres actions qui étaient intéressantes. Mais dans un pouvoir de nuisance, c'était quand même déplacer le prévôt pour les empêcher de dérouler toutes leurs actions. Parce que là, il y avait vraiment une programmation, ils avaient vraiment programmé des actions qui étaient extrêmement bénéfiques pour eux.
Après, justement, ouais, tu peux aussi te dire, bon, ben, je fais un truc qui m'intéresse, qui va me permettre, moi, d'avancer. Je pourrais faire pire, mais regarde, ouais. Je ne l'ai pas fait. Alors, soit parce que tu vas dire, regarde, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi, ou bien juste parce que tu te dis, bon, déjà, je gagne. Voilà, j'ai pas envie encore de les écraser, alors même que je sais que je vais déjà gagner.
Ouais, là c'est un peu différent.
Ouais. Ouais, c'est être magnanime envers ses adversaires. Mais pour le coup, les jeux en couple, hein, le fameux jeu en couple, moi je sais que Nico, si tu écoutes un jour cet épisode, hein, c'est quand on joue ensemble avec ta compagne, enfin pas juste tous les trois, hein, mais c'est vrai aussi pour nous, c'est mais non, mais tu vas pas me faire ça, mais écoute, mais c'est pas gentil, mais mon chéri, machin truc. Et quand tu cèdes face à ça, ça m'insupporte. Non, mais en fait, c'est de l'interaction en dehors du jeu qui entre dans le jeu et que tu te dis, putain, j'ai passé une mauvaise soirée après. Ou,
ça, c'est des relations sociales qui viennent pourrir le jeu.
Et c'est ça, et ça, c'est de l'horreur. Ouais. Non, et pareil, alors, pour le coup, moi, je le connais moins, mais ça s'explique aussi avec le jeu avec les enfants.
Ouais, mais après, tu sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être des interactions qui débordent la partie.
Ah mais oui, c'est ça, mais c'est
dans la vie sociale.
Oui, non, mais parce que moi des fois, je les retrouve et tout, mais tu te rappelles pas, tu m'as fait ça au jeu la dernière fois, putain, c'est un jeu, c'est pas grave, t'énerve pas. Mais en tout cas, également, quand tu joues avec les enfants, par exemple, est-ce que vraiment tu veux les écraser pour leur apprendre que la vie, c'est difficile dans cet univers d'Emmanuel Macron, il va falloir te battre pour réussir et monter ta start-up, Jean-Eudes.
Fais-les jouer au Monopoly, alors, dans ces cas-là.
Mais j'imagine qu'il y a aussi des fois l'envie de leur apprendre les règles, qu'ils comprennent sans forcément les écraser, sans forcément les laisser gagner, je ne sais pas.
Ah, est-ce qu'il faut les confronter à la difficulté? Oui, sans doute.
Mais est-ce qu'il faut les écraser pour ça? Tu vois, parce qu'il y a des jeux que si tu joues adulte et que tu joues contre un enfant, bah, tu vas exploser. L'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Mais,
Tu vois, par exemple, je joue avec mes deux gamins à King Domino. C'est vrai que je ne joue pas forcément de la manière la plus agressive possible.
Pas comme si tu jouais contre Bruno Catala.
Ouais, j'ai pas jamais joué contre Bruno, donc.
mais du coup, ouais, t'es quand même plus soft pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent les règles, pour qu'ils prennent aussi du plaisir.
Ils n'ont pas encore appris l'étape de multiplication, donc ils ont déjà un petit peu de mal avec le scoring. Mais si déjà ils positionnent correctement les dominos, c'est déjà bien.
Voilà, mais
et qu'ils respectent le 5 contre 5.
Du coup, quand tu joues avec eux, tu joues pas de la même manière. Voilà, ouais. L'interaction n'est pas la même avec les joueurs.
Oui, parce que tu vas. Quand tu es un joueur un peu aguerri, ben, tu sais à peu près que les tuiles avec les numéros les plus grands sont les meilleurs. Donc, tu vois les numéros qui vont sortir au tour suivant. Donc, tu peux un petit peu parier ou anticiper ça. Chose que je ne vais pas forcément prendre en compte quand je joue avec les petits. Quoi.
Ah, voilà, donc l'interaction autour de la table entraîne des conséquences sur la partie.
Ouais.
En tout cas, on salue Monsieur Blue, écrase tes enfants et torture ta femme lors des jeux. Il y a tellement d'interactions justement autour de la table, ça peut être du verbal, ça peut aussi être du non-verbal. Et on n'a pas parlé finalement, on peut revenir dessus rapidement, mais des jeux à alliance qui sont formalisés ou non.
Ah ouais, exact.
Du coup, ça crée de l'interaction.
Ça crée, ouais. Alors, qui dit alliance dit aussi traîtrise.
Possible, ça dépend des jeux, je pense au Trône de Fer, Game of Thrones par exemple, qui.
Ou Fief, t'as aussi beaucoup d'affrontements.
Fief, diplomatie aussi. Ouais. Ou là.
Alors là, il faut quand même être bien armé pour faire pour faire la distinction entre la partie et ce qui se passe en dehors de la partie. Parce que ça, tu peux pas jouer à ce type de jeu avec n'importe qui.
Ouais, enfin ça dépend parce que dans diplomatie, pour le coup, tu écris tes ordres. Et alors t'es pas obligé d'écrire ce que t'as dit aux autres. Tu dis un tel va là, un tel attaque ci, un tel attaque ça.
La trahison, c'est horrible en fait comme interaction.
Ouais.
Enfin, ça peut être jouissif. En fait,
c'est jouissif quand tu l'as fait et c'est dur quand tu l'as subi. quand tu l'as fait et que ça marche.
Bah, moi, je peux la subir, mais quand je vois avec certains joueurs ce que ça peut engendrer, je préfère ne même pas la provoquer. Tu vois.
Ouais. Oui, ça dépend après, effectivement, ça des joueurs. Mais dans Diplomatie, ce qui est intéressant, parce que Game of Thrones, ça va être des petits regards, ça va être. Tu viens, tu me soutiens là si je fais ci, tu me soutiens si je fais ça, je peux utiliser des bateaux, des trucs comme ça. Dans Diplomatie, il y a toute la phase de discussion qui est timée, où tu vas discuter avec les autres joueurs, que encore une fois, ça ne t'engage à rien de discuter. Mais du coup, toute cette interaction est formalisée par le jeu. Donc ça peut être effectivement des alliances qui sont formelles ou non, qui sont respectées ou non, mais c'est vachement interactif, quoi. Enfin, ce genre de jeu. Et idem dans Blood Rage ou dans je ne sais quoi, c'est je fais ça puis tu fais ça comme ça on lui défonce sa race.
Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment autorisé dans Blood Rage, la partie Alliance.
Oh, avec des bons petits regards justement. Tu vois, là c'est l'interaction sociale justement, c'est tu te regardes d'un regard entendu.
Du coup, il n'y a pas de contrat social sur le fait qu'on va faire telle action ensemble ou l'un contre l'autre.
Non. Et c'était juste un point sur les alliances, parce que justement, ça fait partie des interactions autour de la table, quoi. Enfin, les petits regards, les petits coups de pied sous la table, ce genre de choses. Et du coup, on peut revenir peut-être sur The Mind.
Ouais, mais tu peux avoir la même chose dans des jeux de gestion à l'allemande, où tu vas venir acheter des bâtiments ou des tuiles, où tu t'échanges un petit regard, tu sais que tel bâtiment va intéresser un autre. Enfin, c'est un peu implicite, hein. Mais...
Et justement, on rentre dans tout ce qui est la parlotte, qui est justement, on disait tout à l'heure, fais ça, parce que sinon il va le faire, c'est évident, fais-le, alors toi ça va pas te raconter
autant.
Ah mais
c'est chiant, ça pourrit un peu le jeu.
Ça dépend comment c'est fait. Moi, si tout le monde joue comme ça autour de la table, tu vois, et que tout le monde a compris que c'était une façon de faire et que personne n'est trop dupe, ça passe, je trouve. Mais effectivement, si c'est quelqu'un que tu sais influençable, qui connaît pas bien le jeu, là c'est insupportable.
Ouais.
Ça aussi c'est de l'interaction sociale. Il y a la stratégie de la pleureur ou du chouinard, la stratégie ouin-ouin. Hein, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce que c'est?
Le ouin-ouin?
Le ouin-ouin, quand on chouine.
Bah, c'est celui qui va toujours se plaindre en disant que tous les joueurs jouent contre lui. Hein, c'est...
Ou bien,
on va citer personne.
Je suis tellement mal parti. Oh, je vais jamais gagner. Nico, le même Nico. je vais jamais y arriver. Et finalement, ils finissent comment ceux-là? Premier. Voilà. Mais c'est aussi de l'interaction, ça crée de l'interaction pour se faire mettre un peu en pitié et pour se dire, bon, une fois que tu te l'as fait deux fois après.
C'est ça. On verra s'il y a ce type de profil au Weekend Proxy Jeux.
Sûrement, il y a tous les profils au Weekend Proxy Jeux. Mais la manipulation, les non-verbales aussi, selon les joueurs qui sont autour de la table, les couples, je ne sais pas si tu as des vues sur un joueur ou une joueuse qui est autour de la table, peut-être que tu ne vas pas l'écraser non plus. Ce genre de choses, quoi.
Ouh là, ça va loin, là.
Ouais, mais écoute, ça fait partie des interactions qui vont avoir un effet sur la partie. Et du coup, peut-être qu'on peut aussi parler des jeux de communication, parce que, je sais pas, du Codenames, du Decrypto, du Kipper-Gagne.
Bah, t'as de l'interaction... direct pour le coup, rien que par l'échange de paroles.
Et parce que aussi, selon les personnes autour de la table et la connaissance que tu as d'eux, ça va transformer le jeu. Donc les interactions même en dehors du jeu et même en dehors de tout cadre de jeu vont avoir une influence sur le jeu. Quoi. Quand tu te fais des running gags,
c'est les références sociales après, c'est les références culturelles.
Pas que. Alors dans Decrypto, je tiens à le dire parce qu'on n'a pas le droit aux private jokes, vraiment uniquement connus des joueurs de l'équipe. on a le droit aux références culturelles obscures, mais par contre, les private jokes, on n'a pas le droit. Mais dans d'autres jeux, dans Codenames ou quoi, c'est pas précisé. Du coup, le vécu des joueurs autour de la table, donc les interactions sociales, même en dehors du jeu, ont une influence sur la partie. Quoi.
Ouais, ça va loin quand même.
Ouais, mais enfin, moi, dans tous ces jeux-là, on le fait, quoi, enfin, de manière assez...
Ah, mais c'est difficile d'inclure alors un nouveau joueur.
Ah oui, mais ça, c'est quand on joue entre potes. Je veux dire, à partir de...
Quand j'avais joué avec ton groupe de potes, j'étais un peu perdu hein, pour Codename.
Ouais, 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 bah oui, j'imagine bien, ouais. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu joues avec des nouveaux, ben voilà, pour le coup, t'es plus... t'es un peu plus généraliste.
Neutre, quoi. Voilà.
Généraliste, et du coup, l'interaction sociale se fait par les parties successives, moins que par le vécu de chacun des joueurs. Et ce serait bien peut-être, effectivement, de terminer peut-être sur The Mind, ouais.
J'ai pas joué.
Alors, il y a le bluff dont tu parlais aussi avant, qui n'est pas pour The Mind, mais...
Le bluff, ça rejoint aussi un peu la manipulation.
Le blabla, quoi.
Ouais.
Et alors, The Mind, effectivement, qui est encore une fois pas un jeu que je prise spécialement, j'apprécie pas particulièrement y jouer. Par contre, dans The Mind, il faut essayer de faire le score le plus haut possible en posant des cartes qui ont des nombres de 1 à je ne sais plus combien.
100.
100, peut-être.
Peut-être.
Je ne suis pas arrivé à 100. En tout cas, du coup, en fait, interdiction de parler, et il me semble que tout ce qui est regard et tout entendu sont aussi proscrits.
Il faut jouer avec des lunettes noires, alors, ou comment ça se passe?
Un peu comme dans Hanabi aussi. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment jouer correctement, ben, pareil, dans Codenames, moi, rien ne m'énerve plus que quand l'espion dit « Bon, ça ne va pas être simple, mais parce que c'est tellement, déjà, ça dit tellement de choses sur les...
Ouais, » ça veut dire que tu vas chercher un truc un peu chiadé.
Ouais,
c'est ça, ouais.
Et je dis « Non, mais... le maître espion, tais-toi, tu dis juste tes mots, tu es impassible. » Et donc dans The Mind, chacun va poser sa carte, il ne sait pas qui a quoi comme carte, et le but c'est d'aller dans un ordre croissant, mais juste après, alors pas juste après, mais en tout cas de la carte la plus proche possédée par tous les joueurs. Par exemple, si tu poses le 20, que quelqu'un a le 23, qu'un autre a le 27 et que l'autre a le 28.
Mais tu as une pioche où toutes les cartes sont distribuées?
Non, enfin tu renouvelles les cartes en main, il me semble, mais j'ai plus bien les règles en tête. En tout cas, c'est ça l'idée.
Ah, parce que si tout le monde a toutes les cartes, c'est bon, quoi.
Oui, non, mais non, tout le monde n'a pas toutes les cartes. Non, ouais. Voilà, il y a une redistribution au fur et à mesure. Et donc le but, c'est que la personne qui a le 23 la pose avant celui qui a le 27, sachant que si celui qui a le 27 la pose, pour faire très court, parce qu'encore une fois, les règles sont pas hyper claires dans ma tête, mais celui qui a la 23, je crois, la défausse, et c'est un pas de plus vers la défaite ou quelque chose comme ça. Et pour ça, encore une fois, aucun regard, aucun signal. Donc ça se joue uniquement au feeling d'abord, et là l'interaction autour de la table est ultra présente. Elle va disparaître en fait des gestes et tout, pour être intériorisée par chacun, puisque le petit twist dans The Mind, c'est que chacun en fait respire à la même vitesse, enfin pas directement, mais en tout cas soit dans le même flux, dans le même flow de compréhension de rythme et de vitesse de jeu, et que finalement chacun fasse, quand la personne a mis le 20, que chacun dans sa tête soit 21, 22, 23, paf, il pose le 23, 24, 25, 26, 27, paf, je pose le 27. Et c'est quelque chose de très beau, enfin pour moi, encore une fois, j'aime pas la façon dont c'est appliqué dans ce domaine, mais par contre d'un point de vue, encore une fois, pour en parler, dans l'effet que ça peut provoquer de faire une cohésion, une symbiose autour de la table au niveau du rythme, même peut-être du battement de cœur ou quoi, c'est génial. Mais
t'as juste à mettre un métronome au milieu de la table et tu joues, c'est bon.
Tu peux aussi, mais c'est pas dans la boîte.
Ah.
Le goodie,
ouais,
le goodie
ça.
The Mind. Mais et du coup, en fait, il y a une vraie interaction puisque chacun est obligé de se mettre au rythme des autres. Et c'est presque abstrait comme interaction, mais c'est assez beau en tout cas.
Bon ben, on va jouer avec un pacemaker alors et synchroniser ses rythmes cardiaques.
Enfin, voilà. Donc après, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, les interactions sociales sont importantes et ont parfois une influence. Donc voilà, un jeu sans interaction.
Donc on attend le prochain jeu où il y aura des interactions physiologiques ou physiques.
Exactement. Ou bien qui est interdit aux joueurs de jouer en couple. Mais aux joueuses.
Ouais.
Voilà.
Donc je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qui était interaction, interaction directe, bénéfique, nuisance, etc.
Privation, donc, les différents types d'interactions directes et indirectes, et puis les interactions sociales qui sont omniprésentes. Et tant mieux, heureusement.
Et également celles qui débordent sur les interactions mécaniques, et inversement, les interactions mécaniques qui débordent sur les interactions sociales. Je pense que ça va plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs.
Souvent, jouer à Vanuatu et puis après, voilà. Divorcer.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas également à nous faire vos retours hein, ou sur des mécas, ou sur des jeux.
Parlez-nous des couples d'amis qui jouent en couple.
Voilà, et qui ne le sont plus aujourd'hui.
Non, mais parlez-nous des interactions qui vous ont marqué, des mécaniques d'interaction qu'on aurait oubliées, parce qu'il y en a certainement. Donc, nous, voilà, on attend vos retours avec plaisir.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr.
Proxy avec un i,
comme toujours, et jeu avec un x. Et vous y retrouverez la longue liste de jeux qui sera amicalement préparée par Flavien.
Tout à fait, avec toujours des petits liens quand c'est encore disponible, sinon le lien BGG, c'est vers Philibert.
Sinon, on mettra des liens vers Ocaseo si c'est des vieux jeux qu'on trouve.
Pourquoi pas.
Ouais. Et en attendant, interagissez bien. Et on se retrouve dans 2 mois pour notre dernier numéro de la saison. Sur quelle lettre ? On ne sait pas encore.
On ne sait pas.
On va y réfléchir. Voilà. On va interagir entre nous.
On va interagir.
On va interagir.